À voix nue, cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Yolande Moreau. Ce soir, le cinéma comme artisanat.
Bonsoir Yolande Moreau.
Bonsoir.
Quatrième épisode ce soir de notre série d'entretiens pour laquelle vous nous accueillez chez vous. Alors nous avons changé d'endroit pour ce quatrième épisode. Nous sommes dans votre grange. C'est une grande pièce chauffée avec une cheminée. Nous sommes tout près de la cheminée où deux grandes bûches sont en train de flamber. Il y a des cages à oiseaux, il y a plein de bibelots. Je vois vos deux Césars de la meilleure actrice là-bas qui sont gardés par deux figurines de E.T. l'extraterrestre. Et il y a aussi des photos de vos enfants, des photos de vous, et il y a cette toile magnifique qui a servi d'illustration pour votre film « Quand la mer monte ». On vous voit sur une dune de sable, robe et natte au vent, en train d'accueillir la mer et le vent sur fond de ciel nuageux.
C'est une peinture d'un ami, de Jean-François Jacob, qui habite à Bruxelles. D'ailleurs, à l'entrée, il y en a un autre qui a été fait de salle à faire, encore, qui a servi dans le film aussi.
En quoi cette image, elle vous correspond? Qu'est-ce que vous aimez voir de vous dans cette image-là?
D'abord, j'aime beaucoup ce que Jean-François Jacob peint, la manière dont il fait les choses. Là, c'est effectivement un rappel de ce film de Quand la mer monte, où on avait imaginé, c'était un des premiers éléments où pendant que je chantais une chanson, un faux espagnol, quoi, je crois, devant le vent, il y a un maîtresse qui... J'avais deux petites tresses et donc on les a tenues par des fils en nylon. Et alors il y avait l'accessoiriste de plateau, Jackie, avec des cannes à pêche qui soulevaient mes tresses en même temps que je chante, comme une espèce d'élévation. Donc ce tableau, c'est ce moment-là. Et aussi j'avais mis une robe qui est toute légère et qui, quand j'étais face au vent, elle se gonflait comme un parachute. Et donc, évidemment, on a fait gonfler cette robe pendant le film.
Alors, ça tombe bien, tous ces éléments-là qu'on vient de décrire, parce qu'on va justement parler, on va continuer de parler de votre carrière d'actrice, mais aussi, on va commencer à évoquer votre carrière de réalisatrice. Vous réalisez donc votre premier film, Yolande Moreau, Quand la mer monte, en 2004. Vous le co-réalisez avec Gilles Porte. On va en parler plus en détail de cette première aventure de réalisation. Mais avant tout, j'aimerais savoir de quelle envie est né ce film.
Alors, l'envie, je pense que c'est Gilles Porte qui a amené cette envie. Il avait envie de filmer ce spectacle et d'en faire une histoire.
Ça l'a fait, donc du sexe et du crime, voilà. Votre premier spectacle, oui. Seul en scène.
J'ai eu des velléités de cinéma bien avant, avec des choses qui bizarrement reviennent, et qui sont d'ailleurs dans Quand la mer monte, parce que j'avais eu envie, beaucoup plus tôt, 20 ans avant, de faire un court-métrage, je crois, sur les gens qui prenaient les gestes des autres. Assez curieux comme le thème revient. Je vais essayer de pas m'embrouiller. Les gens, par exemple, les filles qui dansent comme des blacks, qui vont suivre des cours, des danses africaines, ou ici, par exemple, dans le coin, il y a des gens qui font des danses de cow-boys. Je trouve ça fascinant. Et dans Quand la mer monte, d'ailleurs, il y a un sosie de Johnny.
Exact.
Et je suis fascinée par les gens qui prennent la gestuelle ou qui ont parce que le dernier film que je suis en train d'écrire, c'est sur les faussaires, et qui ont envie de rêver par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre quelque part. Et je cherche le bon mot, c'est pas le bon mot, mais il y avait ça dans Quand la mer monte déjà. Il y a le sosie de Johnny.
Mais vous n'interprétez aucun sosie, vous interprétez un personnage très proche de la Yolande Moreau de la vraie vie.
C'est-à-dire je me suis demandé, quand on a fait ce film, qu'est-ce que raconter ça à l'affaire, j'avais 50 ans à l'époque, qu'est-ce que ça veut vouloir dire de tourner un spectacle pour cette femme. Je me suis demandé ce qu'on racontait dans les spectacles, notamment cette histoire de crime, on y revient. Et qu'est-ce que ça racontait à 50 ans Je me suis dit, on met pas mal de rêves dans les spectacles. Et qu'est-ce qu'on rêve dans la vie? Voilà, il y a un parallèle entre ces deux choses-là.
Et donc, le personnage que vous interprétez dans Quand la mer monte, donc c'est Irène, qui est une artiste solitaire, qui fait tourner son spectacle dans le nord, à la frontière avec la Belgique. Et puis là, elle rencontre un drôle de type qui s'appelle Driss, qui vient voir son spectacle, puis qui retourne le voir. Et puis finalement, vous faites connaissance, vous tombez amoureux. C'est une histoire que vous ne pouvez pas tellement vivre, tous les deux personnages. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à cette histoire? Comment, en fait, j'aimerais savoir comment Gilles Porte est arrivé vers vous et comment vous l'avez fait bifurquer, cette histoire de départ?
Alors, l'histoire aussi, c'est... quand je disais, je cherchais comment raconter une femme, je me disais, j'avais 50 ans, et c'est ça l'âge. Et je me disais, c'est un peu l'âge, un peu d'adieu à la séduction. Et je voulais raconter ça, je pense. Et quand elle rencontre Driss, il y a quelque chose comme quelque chose qui aurait pu avoir lieu en même temps. Encore une dernière histoire d'amour qu'on s'offre à l'époque de la ménopause, je dirais. Il y a eu cette histoire-là. Et comment c'est venu aussi, c'est au départ, c'est une envie de Gilles Porte, donc de faire ce spectacle. Je me souviens, c'est un ami de mon mari au départ, et il est venu avec cette envie de raconter quelque chose. Je lui dis, vas-y, écris. Et je me rappelle les premières fois qu'elle est venue avec un synopsis de quelques pages. C'est comme ça que je me suis immiscée dedans, parce que je me rappelle très bien les premiers mots. C'est une bonne femme court le cacheton en jouant son spectacle dans des endroits minables. Je me dis, oh, doucement, parce que...
On parle de moi.
Je me dis, minute papillon, je ne suis pas une bonne femme. On fait ce métier pas parce qu'on court le cacheton, si on veut gagner du fric. On choisit peut-être plutôt autre chose, on peut en gagner, mais c'est accidentel. La plupart des comédiens n'en gagnent pas autant que ça. Et les endroits ne sont jamais minables. C'est à l'affaire, j'ai joué sur des caisses de bière, j'ai joué aussi à l'Olympia ou dans des salles de 2000. Mais les endroits ne sont pas minables, même quand on joue sur des caisses de bière. Dans les petits lieux, partout où on peut se présenter, où il y a spectacle, où on est à la lumière et il y a quelque chose qui se passe, c'est pas minable. Donc c'est parti de là. Alors donc j'ai commencé à me prendre au jeu et à écrire. Et donc c'est une histoire très artisanale et qui s'est fait aussi grâce beaucoup à Gilles Porte, parce qu'il a une formidable énergie. Et moi, j'aurais jamais cru, au début, le jeu m'amusait, mais j'aurais jamais cru que ça devienne un film, très honnêtement. Le jeu m'a amusé, on l'a continué. Puis moi, j'ai voulu continuer de la même manière, artisanale. Gilles, au départ, est chef opérateur. Donc c'est comme ça qu'on continue cette histoire. Car un cas, on était trop une production. Ça me fait tout de suite sérieux. Voilà. Et puis, il y a eu plein de gens formidables qui nous ont... le projet s'est monté beaucoup grâce à l'énergie de Gilles. Je vous dis, moi, je n'aurais jamais imaginé...
C'est-à-dire qu'avant cette rencontre avec Gilles Porte, vous aviez des velléités de cinéaste, mais vous ne les aviez
voilà,
jamais
comme je vous ai raconté,
concrétisées. Oui.
Puis, il y a très, très longtemps, je me rappelle, en tournée, j'ai eu un projet aussi... De faire un court métrage avec une nouvelle de Bukowski. Et puis en rentrant, j'apprends que d'abord que c'est très très compliqué d'avoir les droits, et puis qu'il y avait des gens qui étaient en train de le faire. Lune froide de Patrick Bouchitet, c'était cette même de toute façon voilà, j'avais eu des envies mais qui sont passées comme ça, et de nouveau parce que on sent pas à la hauteur. C'est grâce à Gilles aussi, qui a plus connaissance comment les choses se font et la technique, qu'on a fait les choses petit à petit. Et donc, tout a été très artisanal, en fait. Alors, j'y reviens, parce que pour Henri, les choses ont été artisanales aussi. Avec...
En 2013.
Et là, je voudrais en faire un de nouveau. On a fait la musique la semaine passée dans de la grange. J'aime bien cette manière de fonctionner avec des amis, en mettant un pas devant l'autre, faut résoudre des problèmes. Là, il y avait quand même très très peu d'argent pour faire ce film. Je me rappelle la fin, justement pour la musique, c'était compliqué. Parce qu'on avait des envies de musique, il fallait mettre la Traviata Moi, j'avais des amis, c'était qui faisait tourner Kochani. Ce sont des musiciens tziganes qui tournent. Et ils voulaient bien faire la Traviata avec plein de cuivres, une quarantaine de cuivres. Après, il fallait un lieu de répétition, il n'y avait pas d'argent pour tourner. Alors moi, je trouve à la RTB en Belgique, ils veulent bien nous prêter des locaux. Avec Gilles, on y va. Et on a le Kochani, ils avaient répété. C'est pas du tout leur genre de musique. C'est la musique des mariages et tout ça. Donc avec une quarantaine de cuivres, la Traviata, c'était formidable. Sauf qu'on arrive pour les enregistrer, ils vont rire, le preneur de son, mais il y avait trois petites pines. Et donc, inaudible avec tous ces cuivres. C'était pas possible. Et après, on a fait appel à des musiciens qui avaient travaillé avec nous, avec Jérôme Deschamps, et qui habitaient la région de Lille, qui nous avaient fait la tournée des pensionnaires, des très bons musiciens qui avaient fait conservatoire, qui nous ont écrit, qui ont transposé. On l'a fait dans un café à Lille, et nous, on leur a payé leur aller-retour pour Valenciennes et un coca. La musique, c'est ça. Alors, c'est formidable, on a sauvé le coup. Parfois, quand j'écoute le film, ça manque un peu de reprise. Avec les moyens qu'on avait, c'est formidable.
Donc c'est un miracle de cinéma, ce film.
Ah, de toute façon, mais aussi un miracle d'aventure humaine, de l'équipe qui a vraiment porté ce film, je veux dire.
C'est donc un film, je le disais en introduction de cet épisode, qui vous a valu non seulement le César du premier film avec Gilles Porte, mais aussi le César de la meilleure actrice.
Et de Luc aussi.
Et le prix de Luc, exactement, de la première œuvre. Et le César de la meilleure actrice. Donc, comme je le disais, vous interprétez une femme qui vraiment se révèle. C'est-à-dire que quand on vous voit dans ce film, Yolande Moreau, on voit un regard intense, on voit votre corps, vous dévoilez beaucoup dans ce film physiquement aussi. Est-ce que ça a été une épreuve pour vous ou est-ce que vous avez pris du plaisir à montrer la femme et l'actrice que vous étiez?
Honnêtement, quand on a commencé le tournage, je ne me sentais pas prête parce que j'étais tellement dans la préparation avec Gilles d'imaginer. Je ne me suis pas préparée comme d'habitude pour jouer. Puis c'est très proche de moi, comme vous dites. Donc, j'étais pas prête. Et en même temps, peut-être ce film-là, on me connaissait, comme vous dites, à travers les déchirs. Et donc, moi, je savais que je pouvais faire autre chose, mais comme j'étais dans la préparation, des fois, dans la réalisation, tu sais, en un week-end, je me suis mise à paniquer. Des fois, même avant, je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre quelqu'un d'autre? Voilà, après, il y a beaucoup de comédiens qui m'ont dit qu'ils se reconnaissaient dans les tournées, la solitude des tournées, les hôtels. Il y a beaucoup de comédiens qui se sont reconnus là-dedans.
C'est un rôle qui a changé votre carrière. Vous avez reçu énormément de propositions et de propositions même un peu différentes. Alors, faut faire attention, vous aviez aussi beaucoup de propositions et pas des moindres avant ce film. Vous avez tourné avec Jean-Pierre Jeunet, Dominique Cabrera, avec Albert Dupontel, Étienne Châtillier, Colline Serrault. Mais là, il y a eu comme un nouveau souffle après ce rôle-là.
Peu de temps après, ça c'est très heureux, c'est Martin Provost qui est venu me trouver, qui n'habite pas loin, ici dans le coin. Il est venu me trouver ici, on avait quelqu'un qui faisait des travaux, qui travaillait chez lui aussi. Et il me dit, il y a un petit jeune qui voudrait vous rencontrer. Ah, je dis, mais il n'a qu'à m'appeler, tout ça. Et il passe dans l'après-midi, il me parle de Séraphine, et tout de suite, d'abord, j'ai adoré la personnalité de Martin. Et tout de suite, je me suis dit que ce rôle-là, j'avais envie de le faire, qui mêlait justement la religion, la peinture, la poésie, en fait tout ce que, et la folie aussi, la folie ordinaire. Parce que dans mon spectacle, ça l'affaire, ça parle de ça aussi, de folie ordinaire. Et j'ai dit oui à Martin tout de suite, alors qu'il y avait à peine un synoptisme. Ouais.
Martin Provost, quand il vous a rencontré pour le rôle de Séraphine, il vous a parlé de Quand la mer monte?
Oui, il avait vu le film, il l'aimait bien. Je pense aussi que le fait qu'il y ait eu La Mer Monde, elle m'a donné une crédibilité, des fois, par rapport à... Ou que ça fasse moins peur à des réalisateurs, que je fasse la bonne rigolote de service. Ou ce que se déroule, oui, j'ai plutôt envie d'éviter, mais déjà avant, c'est-à-dire s'il n'y a pas quelque chose d'un peu complexe, c'est le luxe aussi, ça, je veux dire, mais j'ai envie des rôles un peu complexes.
Pour les auditeurs, pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu Séraphine, il s'agit donc de la vie de Séraphine de Senlis, cette peintre qui était femme de ménage au début du XXe siècle et qui peignait chez elle la nuit, guidée par des voix. Elle était très mystique, très habitée par Dieu. Et donc voilà, c'est un rôle que vous avez interprété merveilleusement.
C'est peinture elle-même, avec des pigments.
Voilà, elle piquait les pigments rouges chez le boucher, les verres dans la nature, effectivement. C'est un rôle qui a marqué la Yolande Moreau que l'on connaît. C'est-à-dire que,
oui, voilà, et puis la coopération avec Martin aussi, avec Martin Provost.
Mais justement, vous parlez de Martin Provost, et c'est intéressant parce que votre second long-métrage, Henri, en 2013, moi j'y ai vu quelques similitudes entre vos personnages et Séraphine. C'est-à-dire que Pippo Del Bono dans Henri, qui interprète ce rôle-titre d'Henri, et qui se console de sa solitude et de sa mélancolie en regardant la nature, en regardant des vols d'oiseaux. Moi, j'y ai vu beaucoup de Séraphine. Est-ce que ce rôle-là a nourri les personnages d'Henri ?
Probablement, ça, je ne me rends pas compte, parce que pour moi, j'avais plutôt l'impression d'être proche de Quand la mer monte. Mais probablement, de toute façon, on se nourrit de plein de choses qu'on a fait, qu'on a vécu, qu'on en vit. Des fois, je pense qu'on doit répéter aussi des choses.
Est-ce que, par exemple, des réalisateurs comme Martin Provost ou même d'autres qui vous ont beaucoup accompagné tout au long de votre carrière cinématographique, je pense à Gustave Kervern, Benoît Delépine, est-ce que ce sont des cinéastes qui vous ont appris à devenir vous-même cinéaste au-delà de vous accompagner dans votre métier d'actrice ?
Certainement que je les regarde faire, et puis je les regarde plus faire encore depuis que j'ai fait moi-même. Il y a tellement de manières différentes d'aborder les choses. Martin Provost n'aborde pas du tout les choses de la même manière que Gustave Kervern et Delépine. Et je trouve que c'est toujours bien d'aller de voir. Justement, j'ai adoré voir Valéria Bruni travailler aussi. Enfin, je trouve que chaque fois, les gens avec qui on travaille nous apportent. Hein.
Vous soulignez à l'instant, Yolande Moreau, la similitude entre Henri et Quand la mer monte. Il se trouve que ce sont deux histoires d'amour un peu empêchées entre des personnes très, très seules, très habitées par une tristesse. Qu'est-ce que ça dit de vous, ça, cette thématique de l'histoire d'amour impossible ? Alors vous pouvez me dire aussi que c'est un thème très récurrent dans l'art et dans le cinéma, mais pourquoi, dans vos deux films, est-ce que c'est si présent ?
Là, je le voyais. Évidemment, il y a cette histoire d'amour là, mais je vois aussi toujours l'amour comme une espèce de bouée de sauvetage qui nous amène tellement quand on est amoureux. Je pense que dans Quand la mer monte, quand je vous parle des 50 ans, c'était éprouver encore le sentiment amoureux qui quitte de plus en plus à partir du moment où on vieillit. Dans Henri, je voulais faire un homme qui est un peu... Parce que je peux avoir des amis qui ont la cinquantaine, qui étaient très brillants étant jeunes, et qui petit à petit ont laissé tomber. Et en fait, c'est ça le portrait que je voulais donner au départ. Et puis qui est... Où l'amour de cette jeune femme rallume une petite étincelle chez lui qui était éteinte. C'est un peu différent que dans l'autre. Mais c'est dans ce que j'écris encore une histoire quand même.
Dans le prochain, il y a aussi une histoire d'amour.
Oui, il y en a.
Le visage de vos acteurs est très surprenant dans vos films. Il y a Wim Wilert dans Quand la mer monte, qui, comme vous d'ailleurs, dans ce film, a un regard très intense et qui joue beaucoup avec ces instants de silence. Ce sont des regards qui disent vraiment toutes les déclarations d'amour qu'on peut imaginer. Dans Henri, pareil, Pippo Del Bono. Alors ça aussi, c'est une prouesse. Il est tellement électrique, cet homme-là, ce comédien-là. Je me suis demandé comment vous aviez réussi à le canaliser aussi, mais je me demandais si vous pensiez à des visages en écrivant, si déjà ces visages-là, ils étaient présents au moment de l'écriture.
Ah oui, Mullard, par exemple, il n'était pas présent. J'avais dans la tête quelqu'un d'autre et qui n'est pas du tout comédien et qui n'a pas osé faire le film. Et après, je voulais un comédien flamand parce que en Belgique, on vient tous un peu de cette culture double. Moi aussi, ma mère flamande, mon père francophone. Et je ressens fort ces deux parties d'où je viens, deux cultures assez différentes. Et je me sens profondément des deux. Et j'avais envie d'un flamand. Et je connaissais pas les comédiens flamands. Et du coup, le casting pour moi est assez drôle parce que j'ai demandé conseil notamment à Didier Denec qui travaillait beaucoup, c'est un metteur en scène qui a beaucoup travaillé avec des Flamands et je lui ai donné des conseils. Alors j'ai vu plusieurs personnes, comme je ne les connaissais pas, je leur disais mais donnez-moi rendez-vous où vous voulez, donc chez eux ou dans un café. Et très vite, c'est rigolo aussi de dire... c'est important, l'endroit que eux choisissent, je les laissais choisir eux. Et oui, Mullard, il me donne rendez-vous dans un café. Et il me dit, mais comment je vais te reconnaître, avec son accent. Et j'ai dit, j'ai un nœud dans les cheveux, j'avais toujours un nœud dans les cheveux avant. Et alors, j'ai poussé la porte du bar, et il a fait, oh, je suis Wim, et avec son geste, pour montrer mon nœud. Et je me dis, c'est lui. C'est une question d'instinct, ça va très vite. Il y avait tout de suite quelque chose qui s'est passé là. Je suis Wim avec son... Et puis, on est restés très, très amis, d'ailleurs. Il a conduit, c'était une des premières fois au cinéma pour lui, mais là, maintenant, il fait beaucoup de choses. Et il est très connu en Flandre, mais en France aussi. Hein. Et il est super comédien. Puis, c'est lui qui m'a fait la musique d'Henri aussi. Il est musicien. Et donc, il avait son groupe, ils sont venus faire la musique pour Henri, si c'est lui. Il est très juste. Et Pippo Del Bono, c'est différent. C'était de chercher un acteur de cet âge-là qui... Et là, il y avait plusieurs possibles, je dirais. Pippo Del Bono, c'est Martin qui m'en avait parlé. Martin Provost. Et... Et il y avait une forte résonance, parce que c'est un homme qui est passé par des moments difficiles, puisqu'il était atteint du sida, donc il était fort en dépression. Et quand il était en dépression, il était à l'hôpital psychiatrique en Italie, et il a rencontré Bobo. Et donc, c'est un grand metteur en scène, Pippo Del Bono. Et il a pris Bobo sous son aile, Bobo, qui a vécu en asile psychiatrique toute sa vie. Et donc... Quand il est sorti de l'hôpital psychiatrique, il a pris Bobo, et jusqu'à sa mort, il est mort il y a 2 ans, je crois, Bobo. Et il l'a mis dans tous ses spectacles. Les spectacles qu'on a pu voir au Théâtre du Rond-Point, tout. On regarde la scène, on ne voit que Bobo. Hein. Il a un charisme, mais incroyable. Et je trouvais qu'il y avait une résonance avec le thème d'Henri. C'est-à-dire qu'il était sauvé par quelqu'un qui avait des difficultés, qui n'était pas, entre guillemets, qui fonctionnait peut-être pas comme tout le monde. Il y avait des résonances parce que lui, s'il a tiré Bobo de l'hôpital psychiatrique, c'est parce que Bobo l'a tiré de sa dépression. Et donc, il y avait quelque chose de très joli, et je me dis, mais il y a vraiment une résonance avec ce rôle et son vécu à lui. Et puis, voilà.
Donc, il s'imposait pour ce personnage d'Henri.
Oui. Donc l'homme me plaisait bien.
Il y a aussi une autre figure d'actrice, cette fois dans Henri, qui est très marquante, c'est Miss Ming, que vous avez peut-être rencontrée dans Mammouth, lorsque
oui,
vous tourniez Mammouth en 2010.
C'est Candy Ming que j'avais rencontrée grâce à Benoît et Gus de Lépine. Et voilà, j'avais fait un petit tour d'horizon, mais je trouvais qu'elle est très, 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 très juste. Elle est formidable.
Elle est très intense.
Ah oui, très intense.
Vous pensiez à elle quand vous écriviez le rôle de Rosette ?
Non, pas vraiment. J'ai un peu cherché, puis je me suis dit, mais c'est évident, c'est elle.
Quand vous l'avez rencontrée sur le tournage de Mammouth, qu'est-ce que vous vous êtes dit à propos de cette actrice, cette jeune actrice ?
J'ai été fascinée. Parce que, par exemple, sur le tournage, la première fois, c'est dans Louise Michel. Et donc, c'est quand j'ai vu le film, il y a une fille qui joue un rôle tout petit que je n'avais pas vu, puisqu'on n'était pas ensemble. C'est-à-dire, elle avait accepté de se raser la tête pour faire croire qu'elle avait un cancer et accepté de tuer un patron. Donc, elle part avec sa tête rasée pour tuer un patron. Et cette scène... Quand elle est à l'hôpital, je la trouvais tellement intense, elle, sa détermination et son regard, qu'à ce moment-là, je me suis dit, waouh, formidable. Voilà. Je l'ai mieux vue dans Mammouth. Je trouve qu'elle joue plus un peu son propre rôle dans la vie, où elle est très poétique. Elle fait beaucoup de dessins, elle chante, elle fait beaucoup de choses. Mais le véritable... premier coup de cœur, c'est dans Louise Michel, quand j'ai vu le film. Et effectivement, elle est très, 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 très juste.
Et ces acteurs et ces actrices, très, très particuliers dans leur manière d'être, déjà dans la vie, je suppose, et dans leur manière d'interpréter des rôles, comment est-ce que vous les dirigiez ? Quelles indications ? Ou justement, pas d'indications ?
Oh là, je trouve ça très difficile. Il y en a qui disent une bonne direction d'acteur, c'est bien choisir les comédiens. Et... Après, vraiment, je restais très humble avec ça, parce que on essayait juste au moment même. Je me rappelle avec Candy, une indication, je ne voulais pas rentrer dans la séduction outre mesure. J'ai un peu chassé le mignon. Je me rappelle, c'était mon expression, c'est chasser le mignon. Mais sinon, elle était tellement... tellement, tellement juste que les choses suivent leur cours, voilà.
Eh bien, nous continuerons demain soir à parler de votre cinéma, des films que vous avez faits en tant qu'actrice et réalisatrice. Merci, Yolande Moreau.
D'accord, merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Yolande Moreau. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi. Prise de son, François Rivalan, attaché de production, Daphné Abgral, coordination, Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.